Épisode 12 de Québécois. Bonjour Charles.
Bonjour Gabriel.
Il s'en est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé.
Tabarouette, oui.
Fait qu'on a eu pas mal de discussions aussi sur notre page Facebook, québécois.com/québécoisbalado. Ah non, c'est pas ça, pas en tout. C'est québécois.com, on n'a même pas cette adresse-là. C'est facebook.com/québécoisbalado. Bon, on va y arriver. La semaine a été dure. Donc, peut-être on va commencer avec ce qui se passe, peut-être plus localement. On a annoncé le début des campagnes municipales au Québec. Il y en a des campagnes municipales un peu partout. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de celle de Montréal.
Et contrairement aux apparences, ça ne sert pas seulement à donner du matériel à Jean-René Dufort. Si on sait que son fameux concours Miss Candidat est très populaire.
Ah, et c'était bon en plus la semaine passée.
C'était excellent. Et bon, Montréal a un statut un peu particulier, étant donné que c'est la métropole du Québec. C'est la locomotive économique qui tient pas mal tout le Québec. La majorité de l'activité économique là, en pourcentage de population est à Montréal. C'est ici que ça se passe.
C'est pas normal non plus pour une métropole, c'est à peu près comme ça partout.
Oui, c'est sûr. Puis, cette campagne-là est intéressante, étant donné qu'on a, contrairement à il y a 4 ans, on a un maire sortant qui se représente et qui a un bilan à défendre. Mmh. Et on a une aspirante en la présence de Mme Plante qui veut le détrôner. Et là, ça va être une... J'ai maintenant une lutte à deux, là. C'est vraiment juste de ces deux-là dont les médias parlent, même s'il y a d'autres candidats, là. C'est la principale. Donc, là qu'on pourrait commencer à faire un petit bilan, là, de... Les 4 dernières années, avec Denis Coderre, puis quelques petits mots là, sur Mme Plante. C'est encore le début de la campagne, donc j'ai des développements, on va y revenir, mais au moins pour mettre la table, je pense que ça pourrait être pas pire.
Puis, Projet Montréal, ils sont vraiment agressifs cette année. Ça fait à peu près une semaine que la campagne est lancée, puis l'équipe de Valérie Plante, ils m'ont déjà appelé à la maison pour me demander pour leur support. On a eu une conversation intéressante, moi puis le pauvre petit gars qui m'a appelé, puis je suis pas sûr qu'ils vont me rappeler, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais par rapport à ça, on est conscient qu'il n'y a pas juste à Montréal une campagne électorale, il y en a partout dans la ville du Québec, dans la province du Québec. Puis c'est clair que nous, à Québécois, on ne pourra pas regarder toutes les campagnes électorales qui se passent partout dans le Québec. Donc, on va se fier à vous. S'il se passe des choses dans votre localité intéressantes ou bizarres, ou même à caractère des choses qu'on pourrait voir sur Infoman, on vous invite à nous les partager. Je vous rappelle, notre boîte vocale, c'est 1-888-458-44443. 1-888-458-4443. Fait que, ça étant dit, comment ça se passe ici?
On va commencer par le commencement, l'espèce de genèse là, des élections municipales au Québec. C'est un détail un peu méconnu, je pense, mais il n'y a pas toujours eu des partis politiques. C'est une invention assez récente. Avant les années 70, là, c'était des individus qui se présentaient en leur nom personnel.
Ben, moi, je veux dire, quand je suis arrivé à Montréal, ça a été une surprise pour moi de voir qu'il y avait des partis politiques au municipal, parce que chez nous, c'était pas comme ça. Dans les endroits où j'ai voté avant de venir à Montréal aux élections municipales, il n'y avait pas de parti. C'était comme tu dis, c'est des gens qui se représentent, puis qui se font élire sur leur propre mérite, en fait, puis qu'il n'y a pas toute cette histoire-là d'un parti politique d'un ou l'autre. Puis honnêtement, au niveau municipal, personnellement, je trouve que c'est un peu charrié, là, mais bon.
C'est-à-dire que l'avantage des partis politiques, c'est que c'est des organisations à but non lucratif et qui peuvent collecter de l'argent puis en faire une gestion comptable là, qui est plus intéressante que si c'était une personne individuelle.
Mais là, ça peut être un avantage mais un désavantage en même temps.
Ouais, c'est un peu la façon dont c'est fait, mais clairement, c'est plus facile de lever des fonds avec un parti politique.
Ouais.
Toujours est-il que, personnellement, je préfère le système où c'est les gens qui se représentent en leur nom personnel plutôt que les partis politiques, parce que sinon on tombe dans la partisanerie.
Tu me voles les mots de la bouche. Ben, c'est exactement
le niaisage de dire on est contre cette position-là parce que c'est le parti d'en face qui le dit. Là, c'est...
Ouais, non, la preuve, là, c'est comme on discutait avant le podcast, c'est que là maintenant on a c'est Richard Bergeron qui se présente pour l'équipe de codage.
Oui, puis M. Bergeron qui est anciennement le chef de projet Montréal.
Fait que, ben oui, mais juste là, ça dit tout ce que tu as besoin de savoir au sujet des partis politiques de la ville. Parce que c'était le chef, il était le chef de l'opposition, puis là, il se retrouve, ah ben non, finalement, M. Codard, il est pas si pire que ça, là.
Ça, à la rigueur, ça me dérange pas. Le but, c'est d'avoir les meilleures personnes possibles en place. Exactement. Pour gérer la ville. Richard Bergeron, je pense que si ma mémoire est bonne, il est titulaire de doctorat en urbanisme. Tu veux avoir ce gars-là pour... planifier les projets de développement urbain de la ville. T'sais, aucun problème avec ce que lui change de parti. Denis Coderre, par contre, je suis mitigé. Il est très actif, il est très présent. Il reste pas longtemps à bien des places. Par contre, il va prendre des photos, mais je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il est allé véritablement à laisser sa marque. À date, est-ce que je suis un peu mitigé, en fait. Je n'ai pas encore le temps de me faire une tête sur son bilan. Moi, j'ai l'impression, là, de mon intuition jusqu'à maintenant, il a dépensé pas mal d'argent. J'aurais aimé ça, là, qu'il y ait une gestion financière de l'argent public, là, peut-être plus parcimonieuse.
En fait, c'est dommage que l'élection n'ait pas lieu en 2018. Parce qu'aller jusqu'à 2017, là, ça a été son projet, là, de Montréal 375. Puis... C'est pas typique, je pense, de qu'est-ce que tu ferais normalement en tant que maire. Des 375e anniversaire, tu fais ça juste une fois, tu sais. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord, là, il a gaspillé. Écoute, il y a des affaires qui ont coûté un peu trop cher, là, selon moi.
Il y a certainement eu des dépassements de coûts. On mentionnait, par exemple, qu'il y avait une rue qui a été refaite dans le coin de l'Université McGill, il y avait une autre promenade, bon.
La rue dans le coin de l'Université McGill, là, ça fait comme 5 ans que c'est en construction, cette affaire-là. Finalement fini, ça a coûté des millions de dollars pour un petit tronçon de rue qui fait même pas un demi-kilomètre. Je comprends pas. Là,
c'est une bien belle rue, par contre,
gars. Elle est vraiment belle. Non, mais tu ris, mais elle est vraiment belle.
Oui, je pense dedans.
Elle est mieux d'être crissement belle, parce qu'au prix que ça coûtait. Puis de l'autre côté, tu vois comme qu'il y a eu encore une fois là, dans les journaux la semaine dernière, où il y a des employés de la ville qui sont venus mettre asphalter une rue, puis qu'il y avait une rangée de chars qui étaient stationnés sur le bord de la rue. Ben, ils ont juste asphalté autour encore. C'est la deuxième fois cette année qu'on asphalte autour des chars. Fait que l'argent, non seulement elle est un peu dépensée n'importe comment, mais c'est aussi gaspillé, là. C'est, en tout cas.
On va voir comment la campagne évolue, mais disons que Denis Coderre, à mon avis, a un bilan mitigé à défendre, parce qu'il y a quand même eu des relations assez houleuses avec l'école bleue, les policiers, différents employés de la ville, avec d'autres, au fond, compagnies, ou Uber. Il y a eu la difficulté à créer un consensus. Il a pris des positions assez tranchées, là, je pense justement à Uber, là, où il disait carrément de s'en aller. Là,
il a dit bye-bye.
Ouais.
Il dit comment, c'est comme ça qu'il a été cité dans les journaux en disant bye-bye.
Est-ce que c'est au gouvernement ou à l'administration de choisir qui gagne ou qui perd dans une économie? Moi, je pense que c'est mieux de laisser le marché le faire. Si les gens aiment Uber, ben c'est pas au moment de dire à Uber de s'en aller.
Moi, là, écoute, cette espèce de réaction-là à Uber, je comprends pas. Moi, je suis une des personnes qui consomme Uber, puis je vais te dire, là, moi, c'est une expérience sublime en tant que consommateur. Tu trouves ton application, tu tapes « je veux aller à telle place », la personne arrive, t'embarques, t'as pas un mot à dire, tu débarques, le gars, il est payé, ou la fille, elle est payée. Si tu veux lui donner un tip, tu donnes un tip, puis tu sais que ton camp, c'est fini. Ça prend, c'est tellement rapide.
Ouais, mais ça marche dans tellement de villes du monde, en plus.
Tout est traqué. Fait que, tu sais, si jamais il y a un problème, ils vont savoir pas à pas là, où t'es passé, puis par quelle rue, puis qui était ton chauffeur. Tandis que, avez-vous déjà essayé d'appeler la compagnie de taxi pour trouver un objet perdu avec n'importe quelle compagnie à Montréal? Ben, je vous souhaite bonne chance. Parce qu'ils savent pas, ils sont où, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, c'est qui est allé chercher quoi. Non, oubliez ça, là. Fait que le service est mieux, c'est mieux organisé. Puis moi, la dernière fois, j'ai pris un Uber. Écoute, tu peux suivre le taxi en temps réel sur ton téléphone. Tu le vois dans la map. Tu vois le taxi bouger sur la map. Puis quand il arrive chez toi, tu reçois un texte qui dit « Hey, ton taxi est là. » Écoute, je sais qu'il y a des applications aussi au niveau de Diamond Taxi, par exemple, à Montréal, mais c'est pas aussi
évolué. Mais tout ça a été développé en réponse à Uber.
Ben oui, c'est clair.
Et comme on l'a déjà dit sur le podcast, la compétition, c'est le principal vecteur de l'innovation.
Ben oui.
L'industrie du taxi était encroûtée depuis des décennies, puis là, la compétition arrive à cause des nouvelles technologies, puis bam, il se réveille.
Puis là, entendons-nous, là. Coder, là, il est contre Uber, mais c'est pas vraiment Coder qui est contre Uber. Coder est contre Uber à cause des syndicats qui contrôlent le marché du taxi à Montréal. Puis c'est comme ça dans bien d'autres villes. On a la même situation en ce moment à Londres, où Uber a été demandé de quitter Londres. Puis aussi, on a à New York, où les taxis de New York sont vraiment pas contents avec Uber. Fait que puis tout ça, ça n'a rien à voir avec le marché du taxi. C'est plus tout ce qui entoure les grandes finances des taxis vis-à-vis des coûts de licence ou des médaillons à New York ou de tout le taxi, c'est les compagnies qui contrôlent le marché du taxi. Puis à Montréal, ben, c'est le syndicat.
Plus particulièrement, c'est la FTQ. Juste une petite parenthèse là-dessus, là. C'est en 2003 que la FTQ a créé une société en commandite au nom de FinTaxi. Mais si ma mémoire est bonne, là, c'est à peu près 250 millions de dollars qui a été investi pour effectuer de la spéculation financière sur la valuation future des permis de taxi. Ensuite, la FTQ a racheté l'école de taxi en 2008. Donc, elle a été vraiment très, très impliquée là, financièrement, puis au niveau de la logistique, des formations, dans l'industrie du taxi. Alors, c'est sûr qu'eux ont beaucoup à perdre avec l'arrivée d'un compétiteur, mais ils vont faire leur possible pour les tasser. Ce que j'aime pas, c'est quand les gouvernements s'en mêlent. C'est quand des politiciens qui décident qui gagne puis qui perd, alors que le marché peut très bien s'en charger. Là, on a un autre intervenant là-dedans, avec en la présence de M. Taillefer, ex-dragon, qui, lui, rigole dans sa barbe à l'idée que le gouvernement se battre contre Uber à sa place, parce que lui et sa compagnie de taxi, qui a racheté à peu près 40% du marché du taxi à Montréal avec des subventions publiques. Ah, c'est de toute beauté.
Ça, plus tu creuses, là, plus ça pue.
C'est ça le problème, c'est que dès que le gouvernement essaie de s'impliquer trop dans l'économie, ça marche plus. Puis bon, dans le cas de Montréal, c'est une métropole parce qu'il y a de l'activité économique et le but, c'est de permettre à cette activité économique-là de prendre de l'expansion et de se développer à son plein potentiel. Est-ce que Coder a réussi à faire ça durant son mandat? Moi, je l'ai trouvé assez interventionniste, un petit peu trop à mon goût. Je crois qu'il pourrait être plus discret dans sa gestion des fonds publics. Là. Par discret, je veux dire d'être moins flamboyant dans les dépenses, d'être plus sobre. Parce que je veux pas, c'est notre argent à toutes les périodes de taxes qui sont là. Puis même si vous êtes en logement, vous ne payez pas de taxes foncières, ben, je veux pas les augmentations de taxes foncières, vous les voyez sur votre loyer. Hein? Il y a toujours quelqu'un qui paye en bout de ligne et c'est le consommateur. Face à lui, il y a Valérie Plante, qu'on connaît très peu. Elle a battu Louise Arel pour la chefferie de Projet Montréal en 2013. Puis depuis, elle s'est faufilée un petit peu partout. J'attends de voir ce qui se passe. Ma première impression que j'ai eue d'elle, c'était une entrevue au Franc-Tireur. Puis j'ai pas été spécialement impressionné. Elle commençait à embarquer sur le féminisme, puis la ligne rose du métro. Puis là, je suis comme, on peut parler du wage gap. Il n'y a pas un économiste du travail qui prend ça au sérieux. Peut-on passer à autre chose, là?
C'est de l'opportunisme, t'as qu'à moi. Elle veut ça embarquer sur une espèce de bandwagon là, pour se ramasser les votes des gens sur le plateau. Puis c'est des gens de zone-là là, qui croient de fermement à ces histoires-là, même si c'est patentément fou.
J'ai juste de la misère à prendre au sérieux une personne qui se déclare ouvertement féministe.
Hey, elle était aux nouvelles à CTV il y a pas la semaine passée. Une de ses grandes idées, là, c'est d'augmenter les temps de traverser de la rue pour les piétons. Fait que, tu sais, c'est des grandes idées comme ça qu'elle a pour la ville. Fait que, regarde, tu gagnes pas des élections là, en augmentant de 3 secondes les passages à piétons.
Il y a eu un débat intéressant avec Québec solidaire. Je me suis surpris à être d'accord avec, du moins en partie, avec le début de leur réponse.
Oh.
Ils souhaitent décentraliser le pouvoir de l'exécutif du premier ministre. Et je suis d'accord avec ça, décentraliser le pouvoir, qu'il y a moins de personnes et moins de pouvoir, que la cagnotte qu'ils peuvent gérer soit plus petite pour limiter la corruption. L'autre avantage de la décentralisation, c'est de ramener les centres décisionnels plus proches des gens qui, eux, vont être en meilleure position pour juger si leur argent est bien dépensé. Tout ça est souhaitable. Évidemment, Québec solidaire manque un peu de cohérence parce qu'ils veulent pas décentraliser l'économie non plus. Ils veulent garder ça bien centralisé. Ça, c'est leur petit côté communiste.
Ouais.
Mais toujours est-il que dans cette lancée-là, Montréal a obtenu le statut de métropole du Québec.
C'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Ben,
mais qu'est-ce que ça veut dire pour Montréal, puis qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de la province?
Il y avait beaucoup de choses que Montréal n'était pas en mesure de faire parce qu'il fallait s'en remettre au gouvernement du Québec.
Ouais.
Puis toujours devoir attendre après les autres, c'est quand même long.
Ouais.
Hein? Il faut toujours attendre. Hein? Puis c'est sans doute un argument que nos auditeurs plus souverainistes entretiennent à l'égard du Canada, c'est qu'il y a plein de choses que le Québec ne peut pas faire parce qu'il faut attendre qu'Ottawa se tranche. Puis ils ont raison, c'est vrai que c'est un peu plus long. Dans le cas de Montréal, c'est une métropole, puis si on veut qu'elle se développe, elle doit avoir tous les leviers pour gérer correctement. Ça a une âme à double tranchant, ça. Ça veut dire que si Montréal gère tout croche, ça peut vraiment être tout croche. On a moins d'erreurs,
ouais,
on a moins de marge d'erreur.
Il n'y a pas de coussin, en fait.
On devient imputable de notre succès. Fait que ça, c'est, généralement, c'est une bonne chose.
Ouais.
Donc, parmi les nouveaux pouvoirs dont va disposer la ville de Montréal, on va avoir finalement l'occasion de mettre les heures d'ouverture des commerces puis des bars sur son territoire. Il y a plein de villes dans le monde où tu peux aller t'acheter une paire de bobettes à 3h du matin, les magasins sont ouverts. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Du moins, je suis d'accord si la ville donne plus de liberté aux commerçants. Parce que c'est au commerçant de savoir si pour lui c'est rentable de rester ouvert jusqu'à minuit ou à 1h du matin.
Mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris du Québec, là, pourquoi c'est encore comme ça. Tu sais, par exemple, dans les épiceries, pendant longtemps, le dimanche, tu n'avais pas le droit d'avoir plus que X employés qui travaillaient.
C'est comme ça.
Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens.
Laissez les commerçants décider.
Tu sais, tu vas à l'épicerie le dimanche, là. Écoute, je vous mets en défi d'aller dans une épicerie du centre-ville de Montréal à 5h le dimanche après-midi. C'est le bordel. À éviter, là, vous allez sortir de là. Ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine.
Ben, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que le marché est un bon mécanisme pour équilibrer l'économie. Puis les gouvernements, souvent, en voulant bien faire, créent des conséquences indésirables. Ça, c'en est un exemple. À mon avis, c'est aux commerçants de décider à quelle heure est-ce qu'ils ferment. Si la ville utilise ce nouveau pouvoir-là pour donner la liberté aux commerçants, ça va créer de la croissance économique. Si on s'en sert pour les écraser, ça va avoir l'effet inverse. Fait qu'encore une fois, arme à double tranchant, mais au moins, elle va être imputable de notre réussite. Et ces gens-là, on l'espère, s'ils gèrent tout croche, seront punis aux élections suivantes. Autre pouvoir, la ville aura plus de marge de manœuvre pour créer des sociétés municipales pour le stationnement, pour les recharges de véhicules électriques. Ils vont pouvoir octroyer des crédits de taxes aux entreprises avec certaines conditions. Ils vont avoir plus de marge de manœuvre là, sur le plan financier. Ils vont pouvoir intervenir plus facilement dans le cas d'immeubles qui sont jugés insalubres ou qui sont détériorés au point où ils posent un risque pour le public. Jusqu'à maintenant, c'était géré par la régie du logement qui est de compétence provinciale. Alors là, la ville va avoir un peu de compétence là-dedans. Tant mieux.
Peut-être désengorger aussi le risque du logement un petit peu. Parce que...
On va voir ce que ça donne. Évidemment, c'est une loi. Ça se peut qu'il y ait des correctifs à faire pour des amendements.
Ouais.
Mais l'intention sous-jacente à cette loi-là, c'est de donner à Montréal plus d'autonomie. Mais ça, à la base, je suis d'accord avec ça.
Moi, je pense qu'il est temps que ça arrive. Là. Honnêtement, on s'y prend un peu tard.
Oui, je suis d'accord qu'on se prend un peu tard. On a beaucoup de rattrapage à faire. C'est un petit peu préoccupant, en fait, parce que Montréal est une des villes canadiennes qui a eu le taux de croissance annuel par habitant les plus faibles au pays.
Ouais.
C'est pas un hasard. Il y a beaucoup de réglementations au Québec, il y a beaucoup de taxes. C'est toutes des choses qui freinent la croissance économique.
Mm-hmm.
Et c'est regrettable que Montréal n'ait pas pu se développer au même rythme que les autres villes du Canada, parce qu'on a un contexte, oui, qui est différent, parce qu'on est à des emplacements régionaux différents, mais on aurait dû être capable de suivre la cadence.
Ben, c'est clair.
Surtout d'où est-ce qu'on partait. Puis ça a été un échange quand même assez intéressant cette semaine sur notre page Facebook sur l'histoire du développement de Montréal versus celui de Toronto. Mm-hmm. Puis je crois que l'échange, là, c'était avec Sam, je me trompe pas? Oui, Sam Love.
Sam Love.
Excellent nom, j'aime ça. C'est un bon pseudonyme. D'abord, Sam, merci du commentaire. Vous avez tout à fait raison de dire que la croissance de Toronto était plus élevée que celle de Montréal bien avant les mouvements souverainistes au Québec. C'est une ville qui avait une position stratégique pour échanger avec le reste des États-Unis. Oui, il y avait un contexte particulier avec l'espèce de fer à cheval là, qui fait le tour du lac Ontario. Ça s'est développé comme jamais là-bas. Oui, ils ont saisi leurs opportunités dans le milieu des mines. Oui, l'ouverture de la voie maritime dans le Saint-Laurent a permis de décentraliser le commerce portuaire de Montréal vers Toronto. T'sais. Oui, tout ça est vrai. N'empêche que Montréal a quand même été freiné dans sa croissance, à mon avis, là, par la Révolution tranquille et son produit ultime, l'émergence du mouvement souverainiste. On le mentionnait que Montréal a eu une croissance inférieure à toutes les autres villes d'importance là, au Canada à partir de l'année 70. C'est pas étranger au fait que toutes ces compagnies-là... On a perdu, je pense, dans les années 70, autour de 700 compagnies au Québec. C'est beaucoup de sièges sociaux. Mm-hmm. Les sièges sociaux, c'est important parce que il y a tout un écosystème qui gravite autour de ça. Des services juridiques, services comptables, des fournisseurs. C'est important. C'est évidemment, là, sur le plan fiscal, où ils paient leurs impôts, leurs taxes, tu veux avoir des sièges sociaux. Il y en a beaucoup qui ont quitté le Québec à cause de l'incertitude économique qui découlait de l'incertitude politique. Et une des conséquences de la Révolution tranquille et du mouvement, je dirais, néo-corporatiste francophone, hein, pour reprendre l'expression du professeur Saint-Martin de l'Université de Montréal, je vais peut-être vous lire un extrait d'une déclaration qu'il a fait à la commission Charbonneau. Après le show de boucan, puis tout le niaisage, la commission a passé des experts, puis c'est là qu'ils ont décidé de ne plus les passer à la télévision. Puis apparemment, la population n'est pas intéressée par des gens très scolarisés.
Ben, ça fait moins rire, mettons.
Ben, c'est sûr, il y avait moins de matériel pour Infoman, mais n'empêche que l'éclairage du prof Saint-Martin est vraiment très, très intéressant. Je vais vous lire l'extrait. Le nationalisme économique depuis la Révolution tranquille, c'est la colle qui fait coller ensemble le partenariat social, qui fait tenir ensemble ceux qui font partie du néocorporatisme. Les quatre dont je parlais, l'État, le patronat, les syndicats et l'économie sociale. Eux, ils s'aiment pas la face la plupart du temps, mais au niveau du nationalisme économique, ils s'entendent parfaitement. Il n'y a aucune différence entre le PQ, le Parti libéral, entre le patronat et les syndicats. Tous partagent l'idéologie du nationalisme économique, hérité de la Révolution tranquille, qui veut que la richesse, elle aille d'abord à la majorité francophone. C'est une idéologie de rattrapage qui dit que les francophones ont un retard économique et que c'est l'État qui doit appuyer de toutes ses forces là-dessus pour faire avancer cette majorité. Moi, je trouve ça vraiment... Ça, c'est moi qui parle, là. C'est plus la citation. Je trouve que ça résume parfaitement ce qui s'est opéré au Québec à partir des années 70. C'est là où les Anglais, en fait, toutes les autres communautés qui n'étaient pas majoritairement francophones se sont fait tasser. Mm. C'est pas nécessairement négatif que les francophones aient pris leur place, par exemple, sur les sièges, sur les conseils d'administration, dans le milieu de la haute finance. Oui, il y avait un déséquilibre auparavant, mais j'ai l'impression que le pendule est allé trop loin et qu'on a perdu des gens de qualité qui sont allés bouger ailleurs. Hein, le Québec, on le rappelle, là, c'est la province qui a eu le plus souvent, quand on fait les calculs, depuis les années 70, c'est la province qui a eu le plus d'années où le flux migratoire était négatif par rapport aux autres provinces. Les gens ne viennent pas au Québec net.
Puis là, tu parles du flux interprovincial.
Oui, le flux interprovincial. Les gens qui vont du Québec, mettons, vers d'autres provinces, les gens qui vont de d'autres provinces vers le Québec. Le Québec a été négatif. C'est la province qui a eu le flux migratoire le plus faible au Canada depuis 50 ans. À Montréal, on avait une tradition d'alterner un maire anglophone et francophone pendant presque là, que 200 ans. C'est arrivé à... Ça s'est arrêté un petit peu avant les années 20. On avait une tradition, là, à Montréal, on alternait les anglophones et les francophones au poste de maire.
Wow.
Comme ça, toutes les communautés étaient bien représentées. C'est ce qu'on appelle... C'est un mot assez compliqué, là. C'est le consocialisme.
Le consocialisme.
Ouais. Le consocialisme. T'as un peu calice. Consocialisme. consociel.
Petite pause tout le monde pendant que Charles apprenne à parler.
Il y a eu quand même, tu sais, je parlais de la Révolution tranquille, un des héritages de ça, c'est qu'il y a plein de monde qui sont partis. Montréal, un peu, c'est un peu replié sur la question nationale. Et on en a déjà parlé, là, ça a, à mon avis, affaibli le français dans le reste du Canada, mais ça a aussi affaibli Montréal. Parce que Montréal n'était pas une ville comme les autres villes au Québec. On avait, tu sais, sur le drapeau de Montréal, on a quatre, ben, maintenant cinq, là, mais à la base, on avait quatre communautés représentées, écossais, irlandais, anglais et francophones, ben, et les français. On avait les quatre qui travaillaient ensemble pour bâtir cette ville-là. Et c'est important que tout le monde puisse avoir une forme de cohésion sociale, et c'est le politologue Aaron Liebhardt qui a théorisé cette idée-là dans les années 70. C'est un mot à 15$, j'ai encore de la misère à le prononcer, je l'écrirai dans les commentaires pour avoir votre avis. Si vous êtes capable, appelez-nous sur notre boîte vocale.
Oui, si vous êtes capable. C'est ça, en fait, c'est le défi de la semaine. Appelez-nous sur la boîte vocale pour prononcer ce mot-là, ça va être rigolo.
J'ai encore de la misère à le prononcer. Mais toujours est-il que le but de ce système-là, qui était en vigueur à toute fin pratique là, à Montréal jusqu'à la Révolution tranquille, c'est un système qui avait pour but d'assurer la stabilité du système politique dans un contexte où il y avait beaucoup de cultures différentes. Et le but de cette histoire-là, c'était de permettre aux choses de fonctionner relativement bien en dépit des différences. Parce que oui, les gens sont différents, ils n'arrivent pas avec le même bagage, ils n'ont pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, les mêmes croyances. Mais tout le monde vit à la même place, puis il faut que ça marche. À Montréal, on a perdu ça avec la Révolution tranquille. Et moi, je trouve ça un peu regrettable, parce que Montréal, à mon avis, n'a pas réussi à atteindre son plein potentiel. Denis Coderre voulait en faire... en a fait un projet de campagne, là, il y a 4 ans. Je ne sais pas en quelle mesure qu'il a vraiment réussi. Lui, il dit qu'il a remis Montréal sur la map, mais je suis pas certain. Est-ce que... Je sais pas si on a encore récolté les fruits de cette histoire-là.
Ben, le taux de visite des touristes cette année est plus haut que d'habitude. Fait qu'il y a eu au moins ça
de positif. Il y a un autre élément positif aussi, c'est l'indice de confiance des entrepreneurs.
Ah oui.
C'est un indice qui mesure année après année l'impression des entrepreneurs pour l'avenir. C'est très subjectif. On leur demande juste, est-ce que vous prévoyez que les choses vont bien aller pour votre compagnie pour les temps qui s'en viennent? Au Québec, on était en dessous de la moyenne canadienne depuis des décennies. Ça allait vraiment pas bien. Les entrepreneurs n'étaient pas très confiants envers l'économie du Québec. Et cette année, on a vraiment torché. Les choses vont bien. On l'a mentionné à quelques reprises, là, les choses vont relativement bien. Et peut-être que je mettrai le tableau là, sur la page Facebook. Mais la moyenne canadienne est autour de 59 pour l'indice. Puis au Québec, nos entrepreneurs étaient à 70.
Wow!
Donc, beaucoup de points en haut de la moyenne canadienne, c'est significatif. On était number one.
C'est un virage par rapport à ce que ça a été dans les dernières 15-20 ans.
Il y a un bon... Et c'est important le niveau de confiance d'entrepreneurs, parce que s'ils sont confiants vers le futur, ils vont avoir plus de tendance à investir puis à prendre des risques. Ouais. Et les risques, souvent, c'est payant.
Puis on le voit dans le taux de chômage en ce moment, qui est très, 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 très bas. Fait.
Ouais, ben en fait, je crois même qu'il y avait des pénuries de...
Il y a clairement des pénuries.
Pénuries d'employés qui s'en viennent. Donc, guys, si vous cherchez un job, c'est le temps.
C'est le temps. Si vous voulez revenir à Montréal ou revenir au Québec, venez-vous-en. Il y a un petit passage à la colle. Là, vous pouvez juste passer là.
Tu mets les feux aux poudres, Gabriel. Toujours est-il qu'à Montréal, là, si on fait un résumé, si Montréal se porte bien, le reste du Québec se porte bien,
ben oui.
Et on veut que Montréal ait l'autonomie pour justement aller bien et pas toujours dépendre de Québec.
Fait que je sais que ça peut être plate pour les gens dans le reste de la province de toujours entendre parler de Montréal, mais n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires par rapport à ce qui se passe ailleurs, puis s'il y a des problèmes ou des histoires intéressantes à raconter dans le reste de la province, ben, nous, c'est sûr que ça va nous intéresser, puis ça on veut pas non plus que le podcast devienne trop centré sur Montréal, mais le problème, c'est qu'au Québec, la moitié de la population vit autour du Grand Montréal. Fait, la moitié de la population du Québec est là. Fait, veut pas, il se passe beaucoup de choses à Montréal, mais on est conscient qu'il se passe des choses ailleurs aussi. C'est juste que la visibilité est peut-être moins évidente.
Puis, à la limite, moi, je veux qu'il y ait d'autres grandes villes qui émergent. J'aimerais ça voir Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, vraiment là, s'industrialiser puis monter.
Ouais. C'est bon pour tout le monde.
C'est souhaitable là, qu'on ait... T'sais, mettons, on parlait là, du fer à cheval doré autour du lac Ontario, là, avec les villes comme Hamilton, Mississauga, Toronto, bon, toutes ces grosses villes-là qui sont industrialisées. Ben oui, tant mieux.
Ouais.
C'est ça le poumon économique de l'Ontario. Pourquoi au Québec, le long du Saint-Laurent, on pourrait pas avoir quelque chose de similaire? C'est ce que François Legault voulait avec la vallée... technologique du Saint-Laurent. Il voulait faire un genre de Silicon Valley, le nord de... le long du Saint-Laurent.
Puis, laisse-moi te dire, on a le potentiel pour le faire. Les gens, ils peuvent bien rire de ses idées, à lui, des fois, là. Mais, écoute, on a une population très éduquée, on a plein d'universités puis de collèges. On est capable de le faire. Ça, c'est certain.
Si seulement le gouvernement voulait juste laisser le monde être innovant puis arrêter d'envoyer des signaux comme quoi les compagnies étrangères ne sont pas les bienvenues.
Imagine, OK, là, si tu es un investisseur de l'extérieur qui regarde comment Uber se fait traiter au Québec, mais moi, ça m'intéresserait pas de venir m'installer au Québec. Ils vont dire, mais check ça. Ils ont les syndicats dans la poche, puis ils font tout pour les sortir du Québec. Mais Uber, le Québec, c'est pas un énorme marché, là. Ils sont partout dans le monde. Tu peux avoir un Uber à Calcutta, en Inde. Fait que... Tu sais, je trouve ça, je comprends pas cette mentalité-là au Québec qu'on a, d'espèce de se mettre compte.
Mais c'est le néo-corporatisme, c'est-à-dire que les Québécois francophones s'opposent à des choses qui proviennent de d'autres cultures. Et je trouvais que l'éclairage du prof Saint-Martin, l'Université de Montréal, était très pertinent. Et c'est à mon avis ce qui retient le Québec en arrière. On veut de la liberté économique de faire des affaires. On enregistre dimanche après-midi et les résultats ont commencé à sortir là, pour ce qui se passe en Catalogne. Répression policière assez importante.
C'est hyper hein. que ça peut se passer dans un pays comme l'Espagne. Ces scènes-là, c'est des scènes qu'on est habitué de voir dans des pays un peu moins développés quand il y a des révolutions du peuple. Puis là, t'as un pays qui essaye de juste exprimer son opinion face à un enjeu de société, puis la police débarque, puis qui carrément bat le monde. Je sais pas. Écoute, nonobstant ce que je pense de la sécession de la Catalogne vers l'Espagne, je trouve pas que ça les aide. Je trouve pas que ça aide l'Espagne en ce moment au niveau international, puis surtout au niveau des gens de la Catalogne, d'envoyer la police battre les gens. J'ai de la difficulté à comprendre comment ça peut avoir gain de cause, dans le sens où la politique, c'est souvent une game d'opinion. C'est d'amener les gens de ton côté, puis de paraître comme étant celui-là qui a la meilleure solution pour ton peuple. Mais en faisant ça, t'accomplis rien. T'accomplis rien. Tu vas juste convaincre plus de Catalans encore de voter pour la séparation, parce qu'ils vont dire « mais check, les Espagnols, ils n'ont rien compris encore. » Fait que je trouve ça stupide. De l'autre côté, je comprends aussi qu'il y a tout le processus légal, parlementaire, de la chose qui fait en sorte que le gouvernement espagnol considère que c'est illégal ce qu'ils font là.
Ouais, mais c'est... On l'a dit là... dans le podcast la semaine dernière, là, il y a toujours un bon pourcentage de population, là, 30 à 40%, qui se tient au milieu, puis qui n'est pas vraiment intéressé par le débat en tant que tel. Ils sont pas polarisés, mais ils vont prendre le côté du parti qui se fait violenter.
Ouais.
Fait que le premier qui utilise la violence pour faire valoir son point perd l'espèce d'acceptabilité sociale. Puis c'est très disgracieux ce qui se passe en Espagne présentement. Même si d'un point de vue strictement juridique, Madrid a raison. C'est-à-dire que dans la Constitution espagnol, hein, un peu comme la Constitution canadienne, la Constitution espagnole, il y a des articles qui disent que le territoire ne peut pas être scindé. On ne peut pas procéder à une séparation du territoire, quelle qu'elle soit. C'est défendu par la Constitution et ça a été confirmé par la Cour constitutionnelle espagnole. Donc, d'un point de vue juridique, Madrid, ils ont le droit de faire ça. Le problème, c'est que le droit à l'autodétermination, c'est reconnu aussi en droit international. Mm-hmm. Et pour reprendre un peu le propos de Frédéric Béard, prof de droit, ancien prof de droit à l'Université de Montréal, il précise qu'il devrait peut-être s'inspirer du droit anglais là-dedans, c'est-à-dire du Canada, hein, parce qu'on est largement inspiré du droit anglais, pour la question du Québec et d'Édimbourg, en Écosse, parce que tant l'Angleterre que le Canada, à mon avis, relativement bien géré les tentatives de sécession. Au Canada, si on a envie encore un petit peu de trigger nos auditeurs plus souverainistes, ils ont quand même bien fait ça.
Trigger alert, trigger alert.
C'est pas facile de gérer un référendum sur la sécession d'une partie de ton territoire. C'est pas facile. Tu te mets dans la peau des gens qui sont contre. Dis, ben, c'est pas facile à gérer, mais la Cour suprême du Canada, dans le renvoi sur la sécession du Québec, a quand même mis des balises qui forçaient les partis à se parler. C'est-à-dire que oui, il disait le Québec ne peut pas faire sécession de façon unilatérale. Puis là, les péquistes sont bien fâchés de ça, parce qu'ils disaient « On n'a pas demandé permission! » Mais d'un autre côté, ça forçait aussi le fédéral à s'asseoir puis à négocier. Fait que ça fait en sorte que si le mouvement souverainiste québécois était doté d'une majorité, ce qui est loin d'être le cas en ce moment, mm-hmm. d'ailleurs, le mouvement, il s'essouffle pas mal. Là,
il n'a jamais été aussi bas.
Ben, c'est ça. Mm-hmm. Mais n'empêche que dans la Constitution du Canada, d'un point de vue légal, il y a un mécanisme de négociation qui est déjà prévu. C'est la même chose du côté de l'Écosse. Le droit anglais fait en sorte que il n'y aura pas de violence, du moins. Il n'y en a pas eu. Puis il y en a eu un petit peu.
Mis à part la crise d'octobre.
Ça c'est quelque chose là, avec la FLQ.
Mais on avait des terroristes.
Mais ils mettaient des petites bombes. Là. Ouais, ils ont fait leur petit field trip avec les boîtes à mal.
Des petites bombes.
C'est ce qu'on appelle de la paix extrême, je pense.
Extreme peace.
Toujours est-il que le but, là, c'est que une constitution, là, c'est la loi des lois, c'est la base sur laquelle tu travailles sur le plan juridique. Puis à Madrid, présentement, ils n'ont rien pour éviter l'escalade de la violence. Au Canada, on a quelque chose qui s'appelle la négociation. On peut s'obstiner longtemps sur les détails, on peut négocier, mais au moins, on est forcé de s'asseoir puis de négocier puis de parler.
Ouais.
Au moins, on peut régler ça sans se taper sa gueule. Présentement, à Madrid, là, c'est une solution insoluble, non pas à cause de la politique, mais à cause du juridique. Si leur constitution avait été écrite autrement, il n'y aurait pas ces problèmes-là aujourd'hui.
Fait que ce que ça leur prend, un abrogement à leur constitution, en fait.
J'ai l'impression qu'ils devraient effectivement s'inspirer du droit anglais, parce que ça a produit des bons résultats au Québec, ça a produit des bons résultats en Écosse.
Mm.
On peut... Évidemment, c'est des sujets qui sont difficiles pour les deux parties. Il y a eu des débordements. Mais dans l'ensemble, dans le portrait global, les gens ont eu l'occasion de s'exprimer, qui ont eu l'occasion de s'exprimer pacifiquement, de négocier, d'en parler, sans avoir peur de se faire réprimer par la police.
Ouais. Je comprends pas, en fait, tous les enjeux légaux et politiques qui existent en Espagne et en Catalogne, mais quand on voit les images qui sortent en ce moment de la Catalogne, ça fait peur. Tu sais, que la police débarque dans des bureaux de scrutin puis qu'ils ferment les bureaux puis qu'ils saccagent les propriétés puis tout ça, sans parler de la violence physique qui est faite aux gens. Puis là, il y en a des images qui ont sorti, là, des gens ensanglantés avec les t-shirts déchirés, des vieilles madames qui se font tirer par la jambe dans la rue. Ça fait mal au cœur.
Les policiers qui partent avec les ballots de vote aussi.
Ouais.
C'était très disgracieux. Peut-être qu'on mettra quelques photos et des vidéos sur la page Facebook. Il y en a quelques-uns. Parce que maintenant, hein, avec la magie de la technologie, merci au capitalisme d'ailleurs pour ça. Grâce à la liberté de marché, les gens sont capables de trouver des solutions à des problèmes qu'on a. Et aujourd'hui, grâce à cette technologie-là, les gens peuvent faire de la démocratie directe.
Ouais.
Ils sont dans un bureau de vote, sont témoins de la police qui débarque pour prendre les ballots de vote, les films, ça se ramasse sur Internet, ça devient viral, et on a accès à de l'information privilégiée. Et je dis privilégié avec tout le poids que ça a.
Ouais.
On est choyé d'avoir accès en temps réel à ce qui se passe ailleurs. Ça a été le vecteur de liberté pour beaucoup de peuples.
Ouais.
Par exemple, ce qui s'est passé durant le printemps arabe, c'était les journalistes indépendants qui se promenaient avec leur téléphone et leur petit micro de fortune qui faisaient le meilleur job.
Mais ça, c'est un droit qu'il ne faut pas prendre pour acquis, parce qu'il peut être pris n'importe quand. Les ports par Internet, ça se bloque. Les gouvernements, ouais, ils peuvent mettre des firewalls. Il y a ce qu'on appelle en Chine « the Great Firewall of China », où que, tu sais, tout est contrôlé par le gouvernement. En Corée du Nord, c'est la même chose. C'est pas compliqué pour un gouvernement de limiter cette expression-là d'un point de vue technologique. La technologie nous a permis d'augmenter cette liberté-là, mais elle peut facilement aussi nous l'enlever. C'est pas compliqué.
On ne dira jamais assez. La liberté, c'est fondamental. Et c'est un équilibre délicat entre la liberté individuelle et le pouvoir de l'État. Et les deux sont assez mutuellement exclusifs. Faut maintenir une distance. Et c'est pour ça, en fait, si on revient un petit peu au début, on fait le cercle complet, là. Si on revient à Québec solidaire, qui veut décentraliser le pouvoir, oui, je suis d'accord avec ça. Parce que oui, c'est les gens qui devraient être à même de déterminer ce qui est mieux pour eux, non pas un gouvernement central. Les gens en Catalogne le vivent, les gens à Édimbourg le vivent, les gens au Québec aussi le vivent. Faut laisser les gens libres.
Bon, ben sur ce, mesdames et messieurs, on vous remercie encore une fois d'être avec nous cette semaine à Québec quoi. On vous rappelle toutes les belles façons qui existent de nous contacter. Nous avons notre site web québeccois.ca. N'oubliez pas de nous suivre sur Stitcher, Apple, iTunes, Podcast et Google Play. Cherchez simplement pour Québec quoi, vous allez nous trouver. On a notre page Facebook, facebook.com/québeccoisbalado. Et bien sûr, notre boîte vocale 1-888-458-4443, 1-888-458-4443. Et on vous rappelle le défi de la semaine. Il y en a deux. Parlez-nous de vos élections municipales et aussi essayez de prononcer le mot... C'est quoi le mot?
Oh, je me serrais même pas. Je vais le mettre sur la page Facebook, puis amusez-vous.
C'est beau. Fait qu'à la semaine prochaine, tout le monde. Au revoir, Charles.
Salut, Gab.
Montre-moi ça, c'est un mot-là. Consocionalisme. Attends. Consocial. Attends, on va y essayer une autre fois. Consocial. Ah ben non, ça marche pas. C'est pas social, pas en tout. C'est consocianol. Tabac. Consocial. Sionalisme. Consocialisme. Fuck it, man. Je suis pas. C'est un mot à 15$. Ça n'a aucun sens.
Je reprends. Bon.
On va essayer ça une autre fois, là, sans utiliser ce mot-là.